Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir sur Calade pour une nouvelle émission de Alors on change, le rendez-vous mensuel d'Alternativa consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
Calade 100.9.
Une goutte d'eau suffit pour créer un monde, écrivait Gaston Bachelard, philosophe français du siècle dernier. L'image est belle et douce, mais la réalité nous rappelle chaque jour que cette ressource essentielle est menacée de toutes parts. Menacée par son utilisation sans réserve dans la plupart des sociétés occidentales, alors que sa raréfaction est en train de devenir une vraie réalité. Et là, chers auditeurs et chères auditrices, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait de notre émission précédente en décembre où nous avions traité de la ressource en eau avec Grégory Thévenet, qui était directeur du syndicat mixte des rivières du Beaujolais. On avait parlé ressources en eau. Mais l'eau, elle est aussi en danger du fait de sa gestion, d'une gestion capitalistique dont elle fait de plus en plus l'objet. Et ce sera l'émission ce soir de notre conversation avec notre invité Joël Josseau, secrétaire de l'association Coordination Île-de-France, qui est en studio, non pas en studio, qui est à la technique avec nous, en visio et au téléphone. Bonsoir Joël.
Bonsoir à toutes et à tous.
Donc il existe en France plus de 12 000 services d'eau potable, dont à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, est gérée en délégation par une prestataire privée, on appelle ça une DSP, et ça couvre à peu près environ 60% de la population française. En juin 2021, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale a fait un rapport sur la mainmise de la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences. La remise de ce rapport a fait un peu de bruit à l'époque. Il était souligné que la gestion publique de l'eau, qui relève de la compétence des communes, était plus efficace en termes de qualité de service, mais aussi en termes de coût. Et ce rapport rappelait la nécessité de définir l'eau comme un bien commun. Et pourtant, la privatisation et la financiarisation de l'eau sont des moyens de gestion qui progressent. L'accaparement de l'eau au profit d'un petit nombre devient un vrai, véritable enjeu de société face à sa raréfaction. Ainsi, l'entrée en bourse de l'eau à Chicago il y a quelques années a constitué une sérieuse alerte. On parlera aussi de l'Australie. En France, le sujet de la privatisation de l'eau n'est pas nouveau puisqu'il mobilise déjà de nombreux militants et de nombreux activistes. Il y a plusieurs luttes engagées depuis des années un peu partout sur notre territoire autour de la remunicipalisation des réseaux dont beaucoup sont encore gérés par les sociétés privées. Remunicipalisation des réseaux, mais aussi remunicipalisation de la gestion de l'eau. Des combats citoyens, des combats militants de longue haleine qui ont commencé et qui sont couronnés de succès dans plusieurs endroits en France. On pense à Paris, à Nice, Montpellier, Grenoble, la métropole de Bordeaux, Lyon métropole très récemment, l'Île-de-France, on en parlera ce soir. Tout ça donne plutôt des signes assez encourageants. Alors comment peut-on réussir à repasser en régie publique dans des territoires jusqu'ici gérés par le privé? Et on peut être très intéressé parce qu'ici c'est le cas dans le Beaujolais. Quels sont les avantages d'une régie publique versus une délégation de services privés, une DSP? Comment impliquer les citoyens dans la gestion de l'eau? Eh bien, ce sont sur toutes ces questions que nous allons nous concentrer ce soir avec Joël.
René Dumont, campagne présidentielle de 1974.
Nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
La sécheresse historique des derniers mois nous l'a montré. Il va falloir s'adapter aux pénuries d'eau, ou en tout cas, beaucoup mieux gérer la ressource. Parmi les solutions, réduire les fuites dans les canalisations. On estime aujourd'hui que 20% de l'eau potable disparaît dans la nature.
Si vous ne buvez que de l'eau en bouteille plastique, vous absorberez chaque semaine l'équivalent d'une carte de crédit en plastique.
L'eau devient un pur produit financier. Et c'est ce qui inquiète la coalition Eau. Les 250 ONG qui la composent dénoncent aujourd'hui un glissement dangereux vers la financiarisation de la nature.
Samedi, des milliers de personnes ont répondu à l'appel du collectif Bassines Non Merci et du mouvement Les Soulèvements de la Terre.
Faire l'amalgame entre des militants qui luttent pour un accès universel à l'eau et des terroristes qui tuent des gens, c'est vraiment dangereux.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Elle a trouvé du DDT, elle a trouvé du DDT, du DDT. Du pétrolier, du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau.
Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part.
Et ce petit montage réalisé par JC, un militant d'Alternatiba, nous parle à la fois de la financiarisation, de la privatisation, d'accaparement. Joël, tu es donc le secrétaire de la coordination Eau-Île-de-France, qui a un long, long historique dans la lutte citoyenne pour la remunicipalisation des eaux en Île-de-France. En préparant cette émission, on a relu ce fameux article L222-1-4 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit donc deux formes de gestion des services publics locaux. Une gestion directe, donc une gestion en régie, et puis une délégation de services publics ou délégation DSP, on l'appelle rapidement. Alors, ma première question, elle est assez directe. Pourquoi choisir la gestion publique ? Il y a plein de choses là-dessus, tu pourrais nous en parler pendant des heures. Ça coupe à la fois des questions de coûts, de transparence. Qu'est-ce qui détermine vraiment une gestion publique ?
Alors, je vais essayer en quelques mots, mais d'abord un petit point sur votre présentation. Aujourd'hui, en France, parce qu'il y a, à la fois l'aspect international, l'aspect plus français, aujourd'hui en France, ce qui progresse, ce n'est pas le privé, c'est le public. Et je trouvais qu'à certains moments, vous laissiez entendre que le privé était en train de progresser. Non, ce n'est pas vrai. Il y a de moins en moins de services délégués au privé et de plus en plus de populations qui ont maintenant une régie publique.
C'est ça, en termes de population, ça augmente de plus en plus le fait de petits territoires ou moyens territoires ou même de très grands territoires comme Lyon ou Grenoble qui basculent sur des reprises en main de leur gestion de l'eau.
Exactement, voilà. Donc après, quelques points. La première chose que nous reprochent souvent les élus, par exemple, alors je globalise et c'est pas juste, mais tant pis, vous me pardonnerez quand même, c'est de dire que c'est compliqué de gérer l'eau. Et c'est mieux de le confier à quelqu'un qui en est un spécialiste, parce que comme ça, on n'assume pas la responsabilité. Alors, il y a deux choses. Un, même si c'est une gestion par une société privée multinationale, c'est toujours le maire qui est responsable de la qualité de l'eau et qui sera poursuivi s'il y a un problème. Donc, le fait de déléguer au privé ne lui donne même pas cet avantage. Et ensuite, l'eau, elle est beaucoup moins compliquée finalement, un service de l'eau à gérer, que ce ne peut être une ville qui doit gérer des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants qui doivent manger à la cantine, avoir des animateurs le soir. Donc tout cela, c'est aussi un discours qui a été entretenu par ces sociétés privées pendant des années et des années pour dire « ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames les élus ». On dit moins, mesdames les élus, mais vous êtes...
On s'occupe de tout.
Confiance.
Alors que, in fine, juridiquement, les citoyens vont se retourner, si on a aujourd'hui quelque chose à reprocher à sa commune sur l'eau, même si c'est Veolia ou Suez ou la SOR qui s'en occupe, la responsabilité, elle l'est au maire ou à la mairesse.
Personnel, voilà. Sur le maire. Mmh. Toujours. Donc une fois que l'on sait ça et que le maire s'est rendu compte que on lui a raconté des bêtises, eh bien déjà on peut commencer à discuter. C'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué. Il faut simplement prendre un peu le temps de cela. On nous dit aussi, ça va être plus cher, puisque ce sont des fonctionnaires qui vont s'en occuper, ils sont moins productifs et il en faudra plus. Tout cela est totalement faux. Ce ne sont pas des fonctionnaires aujourd'hui, même en cas de régie publique. On peut peut-être le regretter, mais c'est un autre débat. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des salariés de droit privé. Et dans la plupart des cas, ce sont les salariés que l'on reprend après le gestionnaire privé. Quand vous décidez de retourner en régie publique, eh bien les salariés de Veolia ont la priorité pour être intégrés dans votre gestion en régie. Donc tout cela ne coûtera absolument rien et on aura dans le même temps exactement la même technicité. Et pourquoi ça serait moins cher? Juste de manière très rapide et forcément un peu caricaturale, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, c'est un service public. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés non plus à rémunérer et toute une série de choses qui vont dans la gestion des sociétés. Et quand vous regardez attentivement les services gérés par ce que vous avez cité, Veolia, la SOR, ces gens-là font travailler par ailleurs des entreprises pour faire les travaux qui sont dans leur propre système, dans leur propre environnement, sans mise en concurrence, et tout cela renchérit.
C'est-à-dire qu'eux-mêmes, une fois qu'il y a une délégation de services publics et que ça va être une grande multinationale qui va s'en occuper, elle n'est pas forcément, vous dites, dans la réalité, elle ne va pas mettre forcément elle en œuvre, elle va faire travailler des sous-traitants et là, l'autorité publique n'a aucun regard.
Elle fait travailler les sous-traitants, ce n'est pas le code des marchés publics, il n'y a pas de mise en concurrence obligatoire. Et quand on le voit très attentivement pour nous, en tout cas en Île-de-France, eh bien, c'est toujours des salariés du groupe Veolia, des salariés des entreprises et des sous-traitants du groupe Veolia qui font les travaux sans mise en concurrence. Donc, à chaque fois, des travaux qui sont surévalués.
OK. Et ensuite, donc là, une première recherche de coût, enfin, qui peut être, c'est là où le coût de l'eau peut, le prix de l'eau peut diminuer. Il y a aussi, on se souvient ici, nous, on avait travaillé avec un collectif qui faisait partie aussi de la coordination au bien commun, puisqu'on s'était au bien commun Beaujolais. On avait travaillé sur l'analyse des différents rapports que le délégataire doit donner à l'autorité publique. Et on s'était aperçu qu'il y avait dans les budgets, donc qui étaient payés par le public de l'eau, il y avait quelque chose qu'on appelait une ligne qui s'appelait recherche et participation aux services généraux, quelque chose comme ça.
C'est ça, c'est... Dedans, vous mettez tous les frais de siège, par exemple, vous mettrez... une partie d'ingénierie liée à toutes les recherches sur l'eau, mais qui serviront également à vendre de l'eau en Amérique du Sud ou au Maghreb. Vous avez toute une série de choses qui sont totalement opaques et qui vous font payer là aussi de manière plus importante.
On parle souvent aussi d'une difficulté avec la régie publique. Enfin, l'élément qui nous est souvent opposé, c'est le fait que on va être obligé d'avoir des investissements qui seront plus difficiles à faire par une régie publique. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que, au contraire, quand on parle de temps dans la gestion de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas justement une vision à très long terme qui est favorisée par le fait d'avoir l'eau gérée par une autorité intemporelle comme une mairie versus une multinationale qui va être obligée, parce que c'est son objet et c'est comme ça, de servir d'abord ses actionnaires.
Voilà, vous avez tout à fait raison. Mais pour l'essentiel, le discours qui est tenu par les entreprises sur les questions de l'eau et sur les questions des coûts, c'est du baratin total et ça se démontre très très vite quand on examine dans le détail. Si une entreprise comme Veolia a un marché, une délégation de services publics sur 8, 9, 10, 12 ans, sa rentabilité, elle devra l'exercer sur son contrat. 8, 9, 10, 12 ans. Et ses investissements devront être rentabilisés sur cette durée de contrat. Une collectivité, elle n'a pas à se préoccuper de cette question-là. Mmh. Elle peut se permettre d'avoir des emprunts sur 25, 30, 40 ans, qui est aujourd'hui le maximum possible. Et même cela, ça n'est pas juste. parce qu'un certain nombre des investissements qui sont faits par les collectivités devraient pouvoir être amortis sur la durée totale de leur vie. Mais en tout cas, le public, lui, il a plus de souplesse. En apparence, il est plus rigide. Dans la réalité, il a plus de souplesse en question des amortissements. Il a une meilleure visibilité. Il n'a pas de volonté de faire de l'argent. Et donc, il permettra d'avoir un prix plus bas. Toujours.
Mais est-ce que ça ne va pas constituer une difficulté pour les communes d'accroître leur endettement ?
Non, parce que c'est un service particulier. Ça n'est pas du tout comptabilisé dans le budget général de la collectivité. C'est un budget à part, complètement. On dit souvent l'eau paie l'eau, même si ce n'est pas tout à fait juste. Mais en tout cas, c'est une gestion totalement indépendante. C'est un établissement public complètement séparé et qui n'est absolument pas comptabilisé dans le reste. Ça n'empêchera pas la collectivité de pouvoir investir pour avoir des bons collèges, lycées, des équipements sportifs et d'avoir une véritable politique sociale.
Donc, on parlait tout à l'heure vous parliez tout de suite en introduction du fait que au niveau de la gestion des personnels, forcément, chaque métier nécessite une technicité. Vous avez mentionné la cantine ou la garde des enfants, et à chaque fois, on va prendre des personnels qui sont formés à ça. Sur l'eau, effectivement, il y a aussi, comme pour l'alimentation, cette crainte sanitaire, enfin, en tout cas, ce souci sanitaire. Du coup, ça demande du personnel qui va être spécialisé. Vous disiez, et on se souvient, nous, quand on avait travaillé sur le passage, en tout cas le lobbying pour le passage en régie publique sur le territoire du Beaujolais, sur Villefranche, on se souvient qu'on nous avait, on prenait souvent l'image de dire aux élus, en fait, le jour où les personnels passeront de chez Veolia ou de la SOR à la régie publique, ils changeront de sticker sur leur voiture et ils changeront de t-shirt, mais finalement, vous ne perdrez pas leur savoir-faire puisqu'ils resteront au sein de la collectivité et eux gardent leur métier sous les mêmes conditions. Est-ce que c'est vraiment une réalité ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça peut se dérouler dans la réalité sur les exemples de villes qui sont passées en régie publique ?
Alors, ce que vous venez de dire est totalement exact. La loi rend obligatoire de toute façon à la régie publique la reprise du personnel, à condition que le personnel le veuille. Mais et les choses sont clairement définies, c'est dans les mêmes conditions statutaires. Donc il n'y a aucune perte financière, il y a toujours des adaptations à faire, mais il n'y a aucune perte financière pour le personnel, et donc il n'y a pas de raison qu'ils soient devenus plus idiots parce qu'ils sont devenus des salariés de la régie, bien au contraire.
Donc eux, ils restent sur des grilles de salaire qui étaient propres.
Tout à fait. Seule chose qui parfois nécessite des adaptations, c'est qu'il y a des intéressements, par exemple chez Veolia, qui n'existent pas. Donc, il faut trouver les adaptations par rapport à un statut, mais c'est un statut privé et les salariés ne perdent rien. Au contraire, ils y gagnent du sens de leur travail. Alors qu'avant, ils étaient sous la pression de la rentabilité à faire parfois un mauvais service ou des choses qui leur déplaisaient. Maintenant, ils ont le sens de l'intérêt général et partout où ça s'est fait, on a vu que les salariés s'investissaient beaucoup, quels que soient les salariés, hein, quel que soit le niveau, que ce soit du releveur de compteur, même si aujourd'hui il y en a de moins en moins, jusqu'à l'ingénieur ou au directeur, ils s'investissent parce que le sens du travail fait aujourd'hui partie des choses fondamentales pour tout individu.
Et
l'intérêt général, c'est quelque chose d'extrêmement important, le sens du service public.
Et comment ça se passe au niveau des matériels ? On nous a aussi souvent parlé d'une gestion publique de l'eau entraîne de la gestion pour la collectivité, des véhicules, j'ai pas les mots techniques, mais de tous les appareils qui constituent l'alimentation et la gestion du réseau. Comment ça se passe est-ce que c'est si différent quand c'est une régie publique ou quand c'est une délégation de service public, un délégataire privé? Comment ça rentre dans le patrimoine de la commune ou pas?
Et franchement, ça ne rentre pas du tout dans le patrimoine de la commune. Il faut se sortir ça de l'esprit. C'est une gestion totalement indépendante. Vous avez une structure qui a sa propre gestion, son propre budget, y compris des règles de comptabilité différentes du reste de la collectivité, parce qu'il s'agit d'une gestion privée. le mode de gestion, la comptabilisation, c'est de la comptabilité privée. Et donc, c'est exactement comme la DSP par ailleurs. Il y aura ou des acquisitions de véhicules ou des locations. Il y a aussi du personnel très intelligent pour savoir trouver quelles sont les meilleures options. Et tout cela ne coûtera pas du tout plus cher et vous n'aurez jamais à aucun moment la rémunération d'autres actionnaires ou d'autres ou les gros frais de siège ou de représentation du PDG de Veolia qui vous sera facturé pour une petite part.
J'ai retrouvé l'information sur Villefranche, par exemple. On avait étudié tous les rapports du délégataire. Donc, en l'occurrence, c'était Veolia. Et voir combien ils avaient imputé sur cette fameuse ligne de contribution aux services centraux et en recherche. Et entre 2006 et 2016, on avait eu environ 2 millions d'euros, donc à peu près 250 000 euros par an, qui partaient sur des... Voilà, qui passaient sur des lignes qui servent certainement Veolia. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la triche non plus. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui a un service rendu directement à la communauté. À côté de ça, bah voilà, on se disait qu'il y avait quand même peut-être des coûts de renouvellement de réseau qui étaient très mauvais et qui auraient peut-être pu être pris en charge avec ces 2 millions pendant ces 10 années.
Non, mais bien sûr. Et puis le pire, c'est que... C'est impossible d'aller vérifier. La loi ne vous permet pas d'aller vérifier exactement ce à quoi correspond une série de lignes dans ce genre de choses. Et déjà, dans les rapports du délégataire, qui sont des rapports annuels, les choses ont été soigneusement édulcorées et bien masquées.
Il y a eu des progrès sur ces rapports ces dernières années. On a eu quand même eu l'impression que est-ce qu'il n'y a pas, vous disiez, de plus en plus de communes, enfin le public progresse sur la gestion de l'eau avec des victoires symboliques dans des mairies d'ailleurs de droite comme de gauche. On pourra parler par exemple de monsieur Estrosi sur Nice qui est un inconditionnel de l'eau en régie publique. Donc on doit aussi sortir de cette posture assez dogmatique et droite-gauche sur privé-public. Je disais est-ce qu'il n'y avait pas eu des améliorations faites sur les rapports des délégataires? Par exemple, je me souviens que on ne savait pas qui travaillait pourquoi exactement. C'est-à-dire que la masse salariale était très floue. C'était très difficile d'avoir des équivalents temps plein ou de savoir à peu près combien de personnes étaient affectées à ce contrat ou travaillaient sur la région. La société privée faisant des économies aussi et étant bon gestionnaire pour le coup en mutualisant des contrats sur un territoire régional ou départemental. Est-ce que c'est parce que le rapport de force est en train de changer que le délégataire est de plus en plus poussé à faire mieux ou pas?
Alors, je ne sais pas s'ils font mieux, mais en tout cas, oui, vous avez raison, ils sont obligés d'être un peu plus transparents. On ne va pas jusqu'à la transparence réelle, mais un peu plus, oui. Parce qu'il y a des questions posées, parce qu'il y a des procès, parce que les élus font aussi le même cheminement que le public. Le public, aujourd'hui, il est globalement en faveur de la régie publique, de cette gestion publique retirée, arrachée aux mains de ses puissances financières. Mais les élus font la même évolution. Ils se rendent compte aussi qu'ils doivent se réapproprier les choses. Donc, ils posent plus de questions, ils anticipent plus, et on peut avoir comme ça des rapports qui sont améliorés. Et de la même manière, on a aujourd'hui de plus en plus d'excellents travail avec les élus, les associations d'élus, pour travailler au retour en régie publique. Je dis globalement, parce que suivant, en fonction des endroits, ça se fait de manière différenciée, et vous avez bien raison. Ça n'est pas du tout une question idéologique, un peu plus proche de vous, même si quand même c'est, parce que je fais référence aux activités viticoles, mais la ville de Troyes, qui est une ville importante dans Champagne, est aussi avec un élu LR, François Barouin, eh bien, il est à la tête d'une régie publique de l'eau, parce qu'il a aussi compris que l'intérêt de ses habitants, ça pouvait être celui-là, quoi.
Et donc, ce sont des éléments qui sont aussi liés à des questions de transparence et de maîtrise de la décision.
Oui, tout à fait. De transparence, maîtrise de la décision. Et puis, comme il n'y a pas que la question du prix, quoi, également, sur les questions de la régie. C'est aussi un autre rapport à ce qu'on appelle, ce que vous avez dit, comme le bien commun. C'est une réappropriation de quelque chose de fondamental. L'eau, c'est la vie, on le dit souvent, mais au-delà de la formule, c'est du réel. Et les citoyens s'emparent de plus en plus sur cette question-là, avec la, la dramatisation qu'il y a en ce moment avec les questions de sécheresse, de pollution et autres, on se dit qu'il faut mieux gérer la ressource, qu'il faut aussi, pour bien la gérer au niveau local, et que ça ne soit pas éloigné des citoyens, qu'on puisse mieux travailler à protéger les captages, à protéger, à éviter cette pollution de l'eau. Voilà, et il vaut mieux cela que toujours avoir la complexité, l'avancée technique et technologique.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoutée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la scène du Revox. Oh, oh, elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur menthe à l'eau, cherchait du regard un spot, le dieu projecteur.
Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr, elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop.
Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Oh, oh.
Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentent à l'eau. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio. Décor couleur menthe à l'eau, perdu dans sa mégalo. Moi je suis de trop.
Mais un type est entré et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Oh, oh, oh. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Oh, oh, la fille aux yeux monte à l'eau.
C'est soumise aux yeux noirs,
couleur de trottoir.
Et moi je n'en pouvais plus,
elle n'en a jamais rien su.
Ma plus jolie des mythos,
couleur menthe à l'eau.
Toujours sur l'émission Alors on change d'Alternativa et on vient d'écouter Couleur Mentalo avec Eddie Mitchell et Julia Armanet, une jolie reprise. On continue sur notre thème de la gestion publique de l'eau avec Joël qui est au téléphone avec nous de la coordination Île-de-France au bien commun. Joël, on a sur la question, je voulais revenir, on en a un peu parlé tout à l'heure, la question de l'accaparement de l'eau sur privatisation, accaparement, financiarisation, des mots durs à dire. Mais on voit de plus en plus éclore aussi, alors peut-être plus à l'étranger qu'en France, puisque vous disiez qu'on était en train de partir sur le volume de gestion de l'eau publique augmentait en France. Mais en tout cas, on voit à l'étranger, et puis on a vu aussi récemment des gens se mobiliser à Paris vers la Bourse parce que l'eau est de plus en plus financiarisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? J'ai récemment, dans la préparation avec Bernard, on a vu ce reportage sur Arte d'une situation assez édifiante en Australie où l'eau est entrée en bourse et du coup le prix de l'eau varie en fonction du marché financier, et certains agriculteurs se retrouvent dans des situations de désespoir total à ne pas pouvoir nourrir leurs bêtes ou arroser leurs champs, et il y a de plus en plus de ventes de fermes pour être rachetées par des très gros groupes, puisque finalement seuls peuvent se permettre ces gros groupes de voir une trésorerie fluctuer du simple au double en fonction des saisons. Cette financiarisation, c'est un vrai danger au niveau mondial?
Alors, c'est à la fois un vrai danger et en même temps quelque chose de très limité pour l'instant, parce que alors, il y a l'Australie, il y a quelques endroits, c'est aux États-Unis que les choses ont un peu démarré, mais aux États-Unis, malgré cette volonté capitalistique, les choses ne progressent pas véritablement. Et il y a par contre, il y a un tel déficit d'eau qu'ils ne parviennent pas véritablement à répondre aux besoins même de ceux qui ont de l'argent. Donc la question, elle est un peu plus compliquée que cela. Nous avons le sentiment, en tout cas en France, en Europe, que nous sommes encore pour un temps à l'abri de ces questions, mais nous avons participé aux mobilisations autour de la bourse, là, avec la coalition eau et toute une série d'autres amis pour justement mettre en garde un petit peu tout le monde, parce qu'à plus petite échelle, en France, les choses se font pas de manière identique liée à la bourse, mais quand vous voyez une partie du monde paysan qui se met à s'accaparer dans des bassines l'eau qui est de l'eau bien commun, bien de tous, on est sur une réflexion qui est un peu la même.
Et comment justement l'autorité publique, sur ces histoires de méga-bassines, comment l'autorité publique en arrive-t-elle à soutenir ce type de solution?
Alors, c'est jamais simple de bien comprendre, mais aujourd'hui, il faut bien voir que l'agriculture en France n'est pas gérée par le public. Elle est gérée par les chambres d'agriculture qui sont gérées elles-mêmes pour l'essentiel par le plus gros des syndicats agricoles et qui ne gèrent que dans un seul intérêt et sûrement pas dans l'intérêt public. La FNSEA, pour ne pas la nommer, gère la quasi-totalité aujourd'hui des chambres d'agriculture. Et après, les préfets, comme dans beaucoup d'endroits, hélas, ne gèrent pas dans l'intérêt public, mais ils gèrent à très courte vue en fonction des intérêts politiques un petit peu qui leur sont vivement conseillés ou murmurés à l'oreille.
Et dès lors, effectivement, la relocalisation de la gestion publique et du coup de rapprocher l'usager et le bassin, ça fait sens. Et dans ce cas-là, les autorités publiques locales sont finalement beaucoup plus respectives, quel que soit leur bord politique.
Exactement. C'est pour ça que nous ne voulons pas, et partout, et en Ile-de-France, on s'est battu contre un gros syndicat qui faisait plus de 4,5 millions d'habitants. Nous ne voulons pas de ces grands machins qui éloignent totalement les lieux de décision des citoyens, des citoyens qui pourraient avoir envie de contrôler, ou même des élus qui réellement veulent contrôler. Donc il faut revenir à une gestion locale des questions de l'eau, à intéresser les citoyens, et c'est localement qu'on parviendra à les intéresser. Et il faut que, sur les bassins versants, il y a toute une réflexion à avoir, c'est là où est l'eau qu'il faut qu'elle soit gérée. Et dès que vous éloignez dans les grosses structures intercommunales ou très grosses structures, alors vous allez à la catastrophe, vous allez à la gestion bureaucratique. Et le préfet, lui, il n'a pas de compte à rendre à sa population, il est élu par personne. Dans une structure, même intercommunale, si elle est d'une petite échelle, eh bien, les élus sont à proximité, ils travaillent au quotidien avec les citoyens, avec leurs habitants, Et ils sont donc, y compris, je ne sais plus qui disait ça, ils sont à portée de baffe, s'il le faut à un moment. Et donc, il y a une écoute et un travail tout à fait différent. La gestion locale, c'est comme ça qu'on gérera l'eau de bonne manière en France et qu'on permettra de l'économiser, de mieux la protéger.
Donc rapprocher l'usager rapprocher la gestion, faire une gestion de l'eau où l'usager et le bassin soient proches les uns des autres, intéresser les citoyens, donc tout ça c'est des moyens pour le comment s'y prendre. Est-ce que vous en voyez d'autres sur ce comment s'y prendre? Quelles sont les actions concrètes que la société civile pourrait entreprendre? Je vous ai dit, on l'a dit aux auditeurs, nous avions constitué un petit groupe qui s'appelait Au bien commun Beaujolais avec un certain nombre de personnes avant même l'existence d'Alternativa. Comment développer les compétences citoyennes? Quelles sont les actions que nous, j'allais dire, pauvres gens, on peut réaliser? C'est vrai que c'est compliqué de se mettre dans un rapport de délégation de services publics. En tout cas, ça demande du temps. La coordination a développé des outils pour nous aider à faire tout ça?
Alors, je ne sais pas, il n'y a pas forcément... Enfin, il y a des outils qui peuvent être explicités. Il y a surtout un peu une façon de faire. Il ne faut pas demander aux gens de commencer à se mettre à lire le rapport sur la qualité de service et le prix. Ça, c'est le job de quelques spécialistes ou quelques militants plus particulièrement aguerris. Mais il faut, par exemple, faire beaucoup de pédagogie. Nous, on a fait des ateliers sur la facture d'eau. On fait une réunion, 10, 15, 20 personnes, peu importe, et on regarde, chacun amène sa facture d'eau et on décortique. Et on voit que les traitements, on examine quelles lignes vous sont facturées, pourquoi, quels services, faire de la pédagogie, faire réfléchir les gens et faire en sorte que les gens ne se disent pas « bah l'eau c'est facile, il suffit de tourner l'eau du robinet ». Ouais, mais il faut comprendre après qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a dans le prix qui nous est facturé. Ça, ce sont les choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé localement avec des amicales de locataires, avec des maisons de quartier, à examiner sur des petites choses, autour d'ateliers qu'on a appelés « Écolo, c'est économe », qui se font pas seulement par des gens comme nous, mais qui se font dans plein d'endroits pour apprendre aux gens, par exemple, à installer des mousseurs, c'est-à-dire des petits systèmes, à toute petite pièce que l'on rajoute qui fait mousser votre eau et qui fait que vous allez en consommer 15-20% de moins d'eau et avec la même impression, voire même une impression plus agréable. Et vous travaillez cela avec les enfants et ce sont les enfants qui vont s'emparer de ces petits kits et qui après vont montrer à leurs parents comment il faut faire. On a travaillé avec Haute-Paris sur cette question de manière importante. On a aussi travaillé avec des gens pour qu'ils apprennent à faire leurs produits de nettoyage, de manière à ce qu'ils comprennent que l'eau, c'est aussi de la pollution. Mmh. Et que la pollution, on peut aussi, à titre individuel, la contrecarrer. Alors, ça ne règle pas l'essentiel des choses, mais ça permet une réflexion totalement différente et qu'il y ait bien cette perception de, localement, on a un rôle à jouer aussi pour protéger l'eau et pour demander des comptes aux gros pollueurs qu'il peut y avoir par ailleurs, quoi. Voilà, donc c'est parce que nous, on a mis 10 ans avant de parvenir à ce que les deux régies publiques soient créées au 1er janvier. 10 ans.
Ok, et ça, c'était l'impression.
Une année de réunions, de réunions de collectifs, de réunions sur les rapports dont vous avez parlé, mais aussi de petites choses sur comprenons mieux qu'est-ce que c'est cette facture d'eau. Travaillons avec les gens dans les collectifs, par exemple, où pour la plupart, ils n'ont pas de facture d'eau. Parce que l'eau est intégrée dans leurs charges, que ce soit des collectifs sociaux ou des collectifs d'accession à la propriété, ou de copropriété, eh bien, ça permet de rentrer dans le détail et que les gens se rendent compte de ce qu'il aurait réellement facturé. Et tout cela, ça fait progresser la conscience, ça fait participer au collectif, ça fait des gens qui après vont rencontrer leur maire ou le vice-président ou l'élu délégué à l'eau, qui vont lui poser des questions, qui vont lui proposer aussi de l'accompagner, qui vont convaincre après, plus globalement, tout le monde que la régie publique, c'est quand même nettement mieux, quoi. Voilà.
Donc on a il y a un travail à la fois de dédiabolisation, j'allais dire un petit peu de la régie publique et de la complexité et de la difficulté que ça peut apporter pour le gestionnaire, donc pour l'autorité publique. Et donc là, un travail à faire avec les élus. Et puis un travail de compréhension et d'appropriation par la population. Et vous dites que c'est avec ces deux outils-là, ou en tout cas ces deux volets-là, que vous avez réussi petit à petit à arriver à des résultats sur la région Île-de-France.
Voilà, et petit à petit, vous arrivez y compris à entraîner les élus. Nous avons rencontré des élus chargés de l'eau qui n'avaient jamais ouvert un rapport. Et qui donc, quand on leur parlait finances, remontées, ce dont on parlait tout à l'heure, les frais de siège ou les frais d'ingénierie, de choses de ce genre, n'avaient jamais véritablement fait attention. Mm-hmm. Parce que ça n'a pas été la culture. On a abandonné cette question-là. Maintenant, tout le monde se la reprend. Et on a raté, nous, le passage en régie publique il y a en 2010, la décision par les élus, parce que nous n'avions sans doute pas fait suffisamment de travail, mais petit à petit, on a grignoté, et puis, et là, maintenant, c'est à l'unanimité, toute tendance politique, que les élus d'Est Ensemble, par exemple, ont décidé de créer la régie publique, dont Jean-Claude Oliva, qui est le créateur de notre coordination, est devenu le président.
Eh ben, c'est encourageant, merci pour toutes ces informations. On mettra sur le site la page de l'émission les coordonnées de votre coordination Île-de-France pour que nos auditeurs et auditrices puissent aller voir. Et puis on encourage toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir à aussi contacter ou suivre l'actu de Alternatiba, puisque nous allons aussi recommencer à prendre un bâton de pèlerin pour aller faire ce qu'il faut, on l'espère, pour que la prochaine décision ici soit favorable à la régie publique de l'eau.
Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple ensemble, marchant dans la même direction, ignorant l'ethnicité, loin de la tribalité, au-delà des régions, au-dessus des religions, regardant les mêmes intérêts. Oublions l'individualisme, réveillons le patriotisme, il faut créer l'union. Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. C'est sûr qu'ensemble, nous gagnerons tous les combats. Regroupons nos forces, c'est le temps de notre mandat. Dépassons notre passé, il est temps d'avancer. Ils continuent de faire leur marché, maintenant il faut les arrêter. Notre génération a un rôle, ne pas pleurer mais agir. Levons-nous ensemble, réclamons nos droits. Arrêtons de parler dans nos salons, retrouvons-nous sur la place publique. Levons-nous ensemble, réclamons nos droits. Arrêtons de parler dans nos salons, dans la rue la révolution. Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand tu le sauras, il gagnera tous les combats. Mmh.
C'était Le peuple a le pouvoir de Dikenja Fakoli. Et sur ces bonnes paroles, on va clôturer ce thème sur la municipalisation et la gestion publique de l'eau. Un très très grand merci donc à Joël Josso qui était par téléphone avec nous, coordination Île-de-France. On aurait eu plein de choses à discuter encore. On avait dans le petit extrait qu'on vous a passé au tout début quelque chose sur l'eau en plastique, en bouteille, sur justement l'accaparement, sur la manière dont la transparence pourrait être bien mieux effective pour la gestion publique dans la gestion publique de l'eau, avec en ce moment un ministre intéressé. On aura certainement l'occasion de se reparler. En tout cas, ici sur le Beaujolais, nous allons recommencer à prendre donc le sujet de l'eau en question, et nous invitons tous nos auditeurs et nos auditrices à bien se renseigner et à nous recontacter. Tout ça sera mis sur la page internet du site de l'émission. Et il est maintenant l'heure, une fois de plus, de prendre un grand plaisir avec la chronique de la Calade Verte par Bernard.
Merci Anso et bonsoir à toutes et à tous. Sont à l'honneur ce soir justice, élus locaux, nos chers députés et les coquelicots. Actualité nationale néonicotinoïdes. Alors qu'on la croyait doucement assoupie, la Cour européenne se réveille. Youpi ! Des juges clairvoyants enfin sonnent ce réveil et rendent une décision favorable aux abeilles. Remercions-les d'avoir résisté au lobby, à l'agro-industrie, au profit, au grisby, à tous ceux qui promeuvent la betterave à sucre, non par philanthropie, mais par esprit de lucre. Merci aux ONG, merci aux coquelicots, à toutes celles et ceux, nationaux ou locaux, pour toutes les espérances qu'ils nous ont redonnées. Avec eux, tous ensemble, nous pouvons entonner les néo-nicotinoïdes, c'est le bide, c'est le bide. Faire la nique aux betteraviers, c'est le pied, c'est le pied. Oui, mais me direz-vous, pourquoi toute cette salade? Nous ne sommes pas concernés ici dans la calade. Alors, pour vous répondre, voici une devinette. J'espère qu'après ça, vos idées seront nettes. Le mot betteravier, mettons-nous bien d'accord, est-ce un pléonasme ou bien un oxymore? Actualité nationale nucléaire. Autre bonne nouvelle venant d'un tribunal, elle nous vient de Nancy et elle n'est pas banale. La cour d'appel relaxe 4 militants de Bure, désolé, marquant la fin heureuse d'autant d'années obscures pendant lesquelles l'État usa de grands moyens pour s'acharner froidement contre des citoyens qui ne sont simplement que d'ardents supporters de la lutte locale contre le nucléaire. Actualité locale. Les élus de l'agglo, toujours droits dans leurs bottes, surtout lorsqu'il s'agit au moment de leur vote de dire non à tout, ce qui peut à la ronde modifier un chouïa la marche de leur vieux monde, se sont une nouvelle fois brillamment illustrés. Voici deux beaux exemples de ce qu'ils ont perpétré. D'abord, ils ont dit oui au cimentier Vika, validant le projet vraiment indélicat visant à agrandir ses gravières d'Arnas. Question, faut-il vraiment qu'ils aient la vue si basse au point d'ignorer les impacts climatiques? Promouvoir le béton, c'est vraiment dramatique. Et puis, ce n'est pas tout. Puisque un mois plus tard, ils ont dû discuter autour d'un projet phare, l'extension de la zone à faible émission prolongeant celle de la métropole de Lyon. Un sujet délicat où il faut être subtil et pouvoir en parler d'une façon tranquille. Alors qu'il eût fallu apaiser le débat, on eut droit à un vrai festival de coups bas contre les écolos, locaux ou bien le nier. Voilà comment les choses peuvent parfois mal tourner. Ah oui, on n'a pas de peau. Dans le Beaujolais, les maires, c'est bien les rois de l'anti-écologisme primaire. On leur conseille vivement de lire les statistiques officielles sur la pollution atmosphérique. 40 000 morts en France, est-ce vraiment supportable? Ça devrait faire bouger des élus responsables. Courage et imagination, voilà deux qualités qui, par malheur chez eux, n'ont pas droit de citer. Actualité locale, suite. Notre cher député, souhaitant probablement oublier ses déboires avec son suppléant, s'intéresse subitement à nos amis nippons. Vice-président du groupe d'amitié France-Japon, désigné par ses pairs de l'Assemblée nationale, le voici propulsé à l'échelle mondiale. Alors évidemment, il serait judicieux que pendant un voyage éminemment sérieux sur le thème majeur énergie et climat, il fasse le déplacement jusqu'à Fukushima. Pour finir, un conseil que nous ne saurions taire, connaissant son souci de rigueur budgétaire, pour économiser sur ses frais de mission, voici une petite fable qu'ensemble nous lui dédions. Fable express. Les Japonais, dit-on, aiment le Beaujolais. Quelques gouttes suffisent à ravir leur palais. Même une demi-bouteille devrait les satisfaire et en faire des amis pour un bon millénaire. Moralité, les petits Mikado entretiennent l'amitié. Bon voilà, c'est fini. Maintenant je m'arrête, car si je continue, ça va être ma fête. Oui, car question timing, Ansoga et Alice ne sont pas les dernières à faire la police. Alors, merci pour m'avoir écouté et rendez-vous en mars pour d'autres actualités.
Et c'était la chronique de Bernard, vraiment en rime et avec plein d'humour. Vous pouvez la retrouver sur, pareil, sur le podcast de l'émission de Alors on change sur Radio Calade. Pour finir cette émission et pour la clôturer en beauté, quelques petites infos pour se retrouver de visu et pour échanger ensemble. Il y a plusieurs rendez-vous. Mercredi, un rendez-vous famille, mercredi 8 février, une séance de ciné Alternativa aux 400 coups à Villefranche avec le film de Pierre Salvadori, La Petite Bande. C'est un film sur l'écologie et l'engagement de la jeunesse. Il est à voir en famille et la séance est à 17h30 aux 400 coups. Et puis, on relance aussi avec Alternativa et le Pacte pour la Transition, la campagne pour faire un bilan à mi-mandat des mesures prises par les maires et les présidents d'agglo sur le climat. Et cette campagne à mi-mandat a débuté avec l'envoi de nos vœux et des demandes de rendez-vous aux 18 personnes citées. Ce sera en juin que se déroule ce rapport de mi-mandat, mais d'ici là, il y a du travail et on est un chouette petit groupe. Venez nous rejoindre, vous trouverez aussi toutes les informations. On va faire ce premier bilan en fanfare et en musique. Et enfin, on peut aussi se retrouver en musique pour aller battre le pavé demain, mardi et samedi 11. On se joint à l'appel évidemment de toutes les organisations syndicales pour dénoncer la proposition de réforme des retraites. Vous pouvez retrouver notre prise de position sur notre page internet alternativa.eu/Villefranche, parce que fin de mois et fin de monde, ça va ensemble et que la retraite et le climat, c'est aussi lié. Merci à toute l'équipe du groupe de travail de radio d'Alternativa qui a préparé cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Ce soir, le sujet a été présenté par Bernard qui a fourni un super travail et moi-même. Un grand merci à notre invité Joël Josseau. Bernard a également officié pour la chronique de la Calade Verte et il y avait ce soir à la technique Alice et Gaël. Un grand merci à JC pour la respiration que vous avez entendue en début d'émission. Et un grand merci à Radio Calade et à Mathieu, sans qui cette modeste mais géniale émission en référence à la bassiste suis et au néanmoins génial Mermet, sans qui cette émission n'aurait donc pas lieu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez donc réécouter ainsi que toutes les autres émissions sur le site de Radio Calade.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse tout faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Calade.